Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro Rebelle. Au nom de toute notre équipe, je vous renouvelle tous nos vœux pour cette nouvelle année 2017. Des vœux rebelles, bien sûr, pour une autre vie, pour une société débarrassée des injustices et des inégalités, pour une société fraternelle et en tout cas, des vœux de lutte et de résistance au sein de nos collectifs, de nos associations et au travers de nos initiatives alternatives. Pour cette rentrée de Micro-Rebelles, nous vous proposons trois moments. Tout d'abord, l'agenda qui nous est proposé par Jonathan. Ensuite, une chronique de Michel qui a lu le dernier numéro de la revue Silence et qui souhaite nous entretenir d'un article qu'il a particulièrement apprécié. Enfin, et toujours avec Michel, nous vous proposons un reportage sur les Journées Nationales Prison. Mais pour démarrer cette première émission 2017, je vous propose de la musique libre, comme toujours sur Micro Rebelle. Aujourd'hui, nous écouterons le groupe Goodbye Kumiko. C'est un groupe en provenance de Los Angeles qui a sorti l'album My Wild Arms, Mes Bras Sauvages. C'est un album qui a maintenant plusieurs années. Il comporte des morceaux différents. C'est du rock indépendant avec du piano, de la guitare, du banjo, de la clarinette, du trombone et de la trompette. Quelques morceaux sont de véritables ragtime. Je vous propose donc le premier morceau de leur album. Il s'intitule Bicycle Waltz, valse à bicyclette. Je vous retrouve tout à l'heure. C'était donc Bicycle Waltz du groupe Goodbye Kumiko. Place maintenant à l'agenda des événements et des spectacles à venir. À toi, Jonathan.
Bonjour tout le monde, ici Jonathan de Micro Rebelle. Je suis accompagné aujourd'hui de Lucien et de Michel. Alors, tout d'abord, toute l'équipe de Micro Rebelle vous souhaite une bonne année. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On est de retour avec les agendas et ainsi que les reportages. Alors, j'ai choisi une musique intitulée Arbor Light Rag par Goodbye Kumiko. Le mardi 10 janvier, un théâtre à Liévin, à Arc-en-Ciel, à partir de 14h30, dont le titre est Bois Jonas Serradin, c'est Galabia Cirque. Alors je vais expliquer un petit peu le résumé du théâtre. Tout commence par un verre. Un acrobate se perd dans sa tristesse qui rebondit sur les parois. Il rebondit bientôt lui-même, avec l'ami musicien venu boire avec lui. Les rebonds se démultiplient, la symbiose entre les deux opère jusqu'à la fin où tout finit évidemment par un verre. Alors, les infos pratiques, c'est que le centre concert, c'est à Liévin, c'est à la place Gambetta. Le tarif scolaire est de 3 euros, le tarif réduit est de 5 euros et le tarif plein est de 10 euros. Vous pouvez réserver sur billetterie@sculpturecommune.fr ou bien par téléphone au 03 21 14 25 55. Il y aura le même spectacle le mercredi 11 janvier à 19h au même endroit.
Bien, c'est toujours le mardi 10 janvier et c'est toujours un spectacle à l'initiative de Culture Commune. Donc ça se passera à Salomine, donc le mardi 10 janvier à partir de 19h au collège Langevin de Salomine. C'est un spectacle qui s'intitule Le cri quotidien par la compagnie Les Anges au plafond. Donc dans son journal, jour après jour, une lectrice trouve des mots, des villes, des déserts, des hommes qui sortent des pages le matin pour y retourner le soir, façon pop-up. Pendant ce temps, une violoncelliste alterne sonates classiques et gloussements de poules, le petit monde du journal. Donc, les tarifs s'échelonnent entre 3 euros et 10 euros. Et ce même spectacle sera reproduit le mercredi 11 à 10h et le jeudi 12 à 10h.
Du mercredi 11 janvier au vendredi 13 à 20h au théâtre de Béthune, il y a la représentation de Vanishing Point, un spectacle de Marc Lenné sur la musique de Moriarty. Donc c'est au Palace à Béthune. Suzanne s'embarque pour le Grand Nord. Sur sa route, Suzanne croise Tom, un autostoppeur égaré et franchement mutique. Et puis progressivement, les deux apprendront à se connaître jusqu'à ce qu'enfin, il lui livre son histoire. Donc c'est au Palace de Béthune, du mercredi 11 janvier au vendredi 13 à 20h, Vanishing Point, Marc Lenné et Moriarty. Alors la billetterie c'est de 3 à 20 euros, vous pouvez réserver sur billetterie@comediedebethune.org ou au 03 21 63 29 19. du théâtre pendant 3 jours, du mercredi 11 janvier au vendredi 13, Vanishing Point, au Palace à Béthune.
Passons à présent au jeudi 12 janvier, musique à Arras à 20h, intitulée le Voodoo Game. La première partie s'intitule The Comet is Coming. Du funk africain, Vintage Matinée, du chant voodoo, le Togolais Peter Solo et ses acolytes lyonnais de Voodoo Game vont vous électriser. Entre syncope musclée et blues mystique, cuivre en transe et rythmique bondissante en première partie, The Comet is Coming, trio londonien. Alors, la musique se déroule en Tandensen National à Arras Théâtre de 8€ à 10€. Réservé par téléphone au 09 71 00 56 78.
On continue encore sur Arras. Donc c'est un stage à une formation qui est animée par notre ami Paul Masson, hein, qui a déjà animé de nombreuses formations au LAG et dans toute la région, y compris en France, hein, avec notamment Culture et Liberté. Donc c'est le jeudi 12, le vendredi 13, le mercredi 18, le jeudi 19 et le vendredi 20, donc en fait le 12-13 et le 18-19-20, une formation sur la démocratie et les élections. Donc ça ne vous aura pas échappé, hein, cette année, c'est une année électorale. Je pense qu'on a suffisamment d'informations très diverses à ce sujet. Et donc Paul Masson propose de s'interroger un petit peu sur la place des élections dans nos démocraties, le fonctionnement démocratique avec les élections, de nous interroger d'une manière critique. Hein, à la fois, on va essayer de comprendre et puis en même temps essayer de s'interroger sur ce type de fonctionnement. Donc le plus simple est de se rendre sur le site de Paul Masson. Donc je vous redonne les coordonnées du site, c'est paulmasson.atimbly.net. Voilà, donc à très bientôt.
Vendredi 13 janvier à l'espace Ronnie Cooter de Grenay, il y a la grande saga de la France-Afrique, un spectacle documentaire proposé par la fondation Daniel Ménard. Un parcours sur les chemins obscurs qui relient la France à ses anciennes colonies d'Afrique de 1958 à nos jours. Une histoire et une actualité dont on ne parle quasiment jamais. Voilà, j'en sais pas plus, c'est la grande saga de la France-Afrique. C'est le vendredi 13 janvier à 20h30 à l'espace Ronnie Cooter. Tarif 10 euros, réduit 5 euros. Vous pouvez réserver au 03 21 45 69 50 sur le site de l'espace de Ronnie Cooter ou culture@grenet.fr. La grande saga de la France-Afrique, un spectacle documentaire le vendredi 13 janvier à Grenay.
Passons à présent au samedi 14 janvier, une lecture dessinée ou l'ouvrant à 19h intitulée La romancière et l'archéologue. Une adaptation et mise en scène par Olivia Burton. En 1930, Agatha Christie part à la découverte du site d'Ur en Irak en compagnie de son futur mari, l'archéologue Max Mallowan. Sur scène, la comédienne donne vie à ses mémoires empreintes de nostalgie et d'autodérision, tandis qu'un dessinateur illustre en direct le récit. Les infos pratiques, c'est que la scène se déroule au Louvre-en-Lens. Les tarifs est de 5 euros pour les moins de 18 ans. Le tarif réduit est de 8 euros et le tarif plein est de 10 euros. Réservé par téléphone, sur internet ou à l'accueil du musée, durée 1 heure, tout public. Le numéro de téléphone est de 03 21 18 62 62.
Un autre spectacle musical, cette fois-ci, c'est à Gonnet le dimanche 15 janvier à 16h. Il s'agit d'Il Furibondo par l'Escadron Volant de la Reine. L'Escadron Volant de la Reine raconte en musique la vie romanesque du compositeur Francesco Geminiani, surnommé par ses élèves Il Furibondo en raison de son expressivité débordante. Sonates en trio, sonates pour violoncelle et pièces pour clavecin. Donc l'entrée est libre, c'est à l'unité d'art sacré à l'église Saint-Léger de Gonnet le dimanche 15 janvier à 16h.
De la musique le lundi 16 janvier à Arras, à La Ruche, la salle de spectacle de l'université d'Artois, c'est Trading Litany par Ivan Cruz et le collectif Musix. Il propose une performance sonore sur le monde de la finance en forme de litanie. Une manière étonnante d'aborder la finance, cette Trading Litany, un spectacle musical à La Ruche. La salle de spectacle de l'Université d'Artois à Arras. Tarif 10 euros, réduit 5 euros. C'est dans le cadre du temps fort être humain de Culture Commune. Du coup, vous pouvez réserver à billetterie@culturecommune.fr ou au 03 21 14 25 55, le numéro de Culture Commune. Trading Litany, un spectacle musical, lundi 16 janvier à 19h à La Ruche, salle de spectacle de l'Université d'Artois à Arras.
Le lundi 16 janvier, un cinéma débat à Arras, à 20h au Cinéma Vida, intitulé « Moi, la finance et le développement durable », un film par Josely Lemaire d'Arnoux. Une ménagère de plus de 50 ans ayant récupéré son temps de cerveau disponible va interroger la finance sur sa responsabilité face au développement durable.
Enfin, nous passons au vendredi 20 janvier et ce sera au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Le vendredi 20 janvier à 20h et ce sera une conférence gesticulée, donc la première conférence gesticulée qu'accueille le LAG. L'intitulé de cette conférence, c'est « Terrasser le dragon pour abolir la hiérarchie ». Donc c'est vraiment une conférence gesticulée qui est bien emprise sur les préoccupations du LAG, hein, tout ce qui est l'autogestion, la hiérarchie. Et cette conférence gesticulée sera animée par Lucie Nuzit. Alors je vais redire son nom et son prénom de manière un peu plus continue pour que vous saisissiez un petit peu. Lucie Nuzit. Voilà, je pense que vous avez compris. Lucie Nuzit appartient à l'Étincelle, hein, c'est un collectif pour une éducation populaire politique. Donc ça nous promet un bon moment. Ce sera le vendredi 20 janvier à 20h au LAG à Liévin.
Et voilà, c'est la fin de cet agenda. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci Jonathan. Jonathan a donc profité de son agenda pour nous faire écouter un autre morceau du groupe Goodbye Kumiko, un morceau très ragtime intitulé Arbor Light Rag, le ragtime de la lumière du port. Je vous propose une troisième création de Goodbye Kumiko. Il s'agit de Exclamation Points, point d'exclamation. Et ensuite, je vous laisse avec Michel qui a lu la revue Silence.
One man said to another man, I am feeling old, my hands they shake, and my body's always colder now than it was last year. But the seasons they seem to come and go. Job, they never seems to end. I can feel the
pour ma revue de presse, j'ai choisi un article qui se trouve dans le numéro 452 de la revue Silence, donc de janvier 2017. Un article intitulé « Ubérisation de points, la fin du salariat ». Alors c'est une interview réalisée par Guillaume Gamblin, qui est journaliste à Silence, et qui interroge un inspecteur du travail, Yann Dufour, et qui est également secrétaire national du syndicat des inspecteurs du travail. Alors déjà, de quoi on parle ? Alors, quand on parle d'ubérisation, en fait, on fait référence à Uber, qui est une plateforme sur Internet, une entreprise américaine créée aux orées 2010, et qui met en lien une prestation de service de véhicules personnels. Donc ce sont des particuliers qui ont leur véhicule, qui se proposent d'effectuer une course rémunérée pour quelqu'un qui en a besoin. Et donc cette ubérisation, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément du travail à la tâche. Et ça s'est énormément répandu dans plein de domaines. L'hôtellerie, les livraisons de repas par des restaurants. Voilà, donc il y a pas mal de domaines où il y a eu ce travail à la tâche, cette ubérisation de l'économie, on va dire ça. Et alors, quelle réalité ça englobe à l'heure actuelle ? C'est ce que essaye de montrer, c'est cette réalité qu'essaye de mettre en avant l'interview réalisée dans Silence. Alors, rapidement, je ne vais pas vous relire toute l'interview, mais ce qui est intéressant dans cette interview, c'est déjà en fait ce que ça représente en termes d'actifs, hein, on va employer les termes de l'économie du travail. Eh bien, en fait, il y a à peu près 50 000 personnes qui font ce travail à la tâche, donc ils sont rémunérés pour ça, et ça représente à peu près 0,2% de la population active. Mais l'inspecteur du travail, Yann Dufour, dans son interview, met en miroir un autre chiffre qui est plus intéressant. Il y a à l'heure actuelle environ 1,5 million d'auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses en France. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, alors déjà, ce travail à la tâche, on va expliquer rapidement. En fait, c'est un travail, c'est une relation triangulaire entre la plateforme, par exemple Uber, le prestataire et le consommateur. Donc, c'est de la prestation de service. En fait, les personnes qui s'inscrivent sur Uber pour proposer leur service en tant que conducteur personnel ne sont pas salariés chez Uber. Ils sont prestataires de services. Donc dans le code de travail en France, en fait, ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'il n'y a pas de protection sociale. Si la personne arrête ce travail, elle n'a pas le droit au chômage. Il n'y a pas de protection de la santé au travail. Il n'y a pas de visite médicale, etc. etc. Donc il y a une... On parle de précarisation à l'heure actuelle du monde du travail. Ce travail à la tâche, cette ubérisation de l'économie, va beaucoup plus loin. On est vraiment dans les limbes là, de la précarisation. Alors, toujours dans cette interview, quelle réalité ensuite nous avons ? Yann Dufour préfère parler, donc l'inspecteur du travail préfère parler, en fait, quand on parle de précarisation du monde du travail, lui préfère parler de précarisation du CDI. Ça devient plus rare. C'est pas que le CDI devient plus rare en l'été, mais c'est que les choses qui entourent le CDI sont de plus en plus précaires. Et enfin, dans l'article est illustré par une carte qui est très intéressante, qui s'intitule « Le nombre de morts au travail en Europe » avec des chiffres de 2014. Et la France arrive première avec, en 2014, 517 personnes décédées au travail. Vient ensuite l'Allemagne, 471, et l'Italie, 459. Voilà, donc on a des conditions de travail en France qui sont pas terribles. Et ça pose des questions, en fait, ce travail à la tâche, sur notre monde du travail à l'heure actuelle et sur l'économie en général. Donc c'est une interview vraiment très intéressante. Permet de relativiser un peu la dramatisation qu'on peut faire autour de Uber et de l'ubérisation, mais qui inquiète quant aux sirènes que ça annonce.
Je profite de cette chronique de Michel pour vous rappeler que la revue Silence est en vente au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. D'une manière générale, le LAG vous propose différentes revues, des revues sociales, écologiques, politiques, alternatives. Tout cela est expliqué sur le site du LAG, mais le plus simple est évidemment de se rendre sur place. Le LAG est au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Nous allons rester avec Goodbye Kumiko pour écouter Oakland, un autre extrait de leur album My Wild Arms. Et ensuite, nous redonnerons la parole à Michel pour un nouveau reportage consacré aux Journées nationales prison.
Listen to the discontent, men of a naked room that needs a look just like the ads. And she feels so lonely when she's surrounded by her friends, and she wonders if she even really likes them. But the quiet of her phone, yet another night alone, can be drowned out by the constant television. She can feel the silence sting of the absence of a ring. Evenings filled with endless demons help the lack of feeling, something there to fill the time. Maybe she can wash away all the things she's come to hate about herself in the rooms filled with other people. Room is polished to a glow, but without someone to show, the emptiness of the bed gets harder to handle. She's so miserable, she thinks she needs someone to hold.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier reportage de l'année de Micro Rebelle Hebdo. Alors pour ce premier reportage, je vous propose deux interviews réalisées lors de la soirée du 24 novembre 2016 autour des Journées Nationales Prison. Et le 24 novembre était organisé à Béthune un ciné-débat autour d'un film à l'air libre qui traite de la ferme prison de Moyen-Brie. Et cette soirée était organisée par l'Association nationale des visiteurs de prison, la NVP, et le Secours catholique. Et il y avait, lors de cette soirée, le président de la cellule béthunoise des visiteurs de prison, Philippe Bécard, et la référente du Secours catholique à la maison d'arrêt de Béthune, Monique Lestavel. Et c'est lors de cette soirée que je les ai tous les deux interviewés. J'aborde avec eux des questions autour de l'administration pénitentiaire et de l'univers carcéral en général. Et avec Monique Lestavel, j'essaye de vous proposer un peu un aperçu des actions du Secours catholique dans le milieu pénitentiaire et plus précisément à la maison d'arrêt de Béthune. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier ces interviews. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage. Bonne écoute. Bonsoir Philippe, tu es le président de la section béthunoise de l'Association nationale des visiteurs de prison pour les Journées nationales prison de 2016. À Béthune, la NVP avec le Secours catholique a organisé un ciné-débat. Et justement, alors le thème de cette journée, de ces journées, c'est vivre enfermé. Et vous avez choisi comme réponse avec le Secours catholique un film qui s'appelle À l'air libre. Pourquoi une telle réponse ?
C'est le hasard. On ne connaissait pas le thème des journées de JNP 2016 quand on a arrêté le thème qu'on allait traiter nous. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit sur quelque chose. On avait décidé dès le débat de l'année 2015, la fin du débat novembre 2015, on avait décidé de faire quelque chose pour présenter le milieu ouvert, c'est-à-dire une alternative à l'emprisonnement, et pour montrer qu'en milieu ouvert, la personne condamnée à une mesure de milieu ouvert était plus contrainte que celle condamnée dans un milieu fermé, c'est-à-dire en milieu carcéral, pour montrer que ceux que l'on condamnait à des peines ou à un aménagement de peine à à l'extérieur d'un, d'une prison, donc hors enfermement, étaient aussi, ils étaient aussi bien condamnés et ils purgeaient la peine, ils purgeaient une peine mieux que celle que la personne emprisonnée, puisqu'on on peut prendre le problème par la question de la récidive en milieu fermé. Donc quand une personne est en détention, et ce sont là les chiffres du ministère de la Justice, quand une personne est en détention, dans les 5 ans à l'issue de sa sortie, il a 65% d'être en récidive en milieu en aménagement antenne ou en milieu ouvert, pardon, quand il a en milieu ouvert, donc comme le sursis avec mise à l'épreuve, la contrainte pénale, le travail d'intérêt général, l'assignation à résidence, le contrôle judiciaire. Ce taux de récidive qui est donc de 65% à l'issue d'une sortie d'emprisonnement tombe à 35%. Donc pour nous, il était important de montrer que les mesures en milieu ouvert étaient préférables. Et il était intéressant de mettre de l'argent, parce que ça coûte, dans un milieu ouvert, que plutôt que de construire des nouvelles prisons.
Avant de passer à la deuxième question, je voudrais avec toi faire un petit point vocabulaire pour les auditeurs et auditrices de Micro-Rebelle. Est-ce que tu peux expliquer le milieu ouvert et le milieu fermé ?
Le milieu fermé, c'est, le terme fermé est explicite, c'est une condamnation dans un établissement pénitentiaire. Il y a trois sortes d'établissements pénitentiaires, les maisons d'arrêt, où les gens sont enfermés en attente de leur jugement, ce qui fait à Béthune, ça représente 20% des personnes sur les 340 emprisonnés, incarcérés. Il y a les centres de détention, donc la maison d'arrêt aussi, donc c'est les prévenus, et c'est aussi les peines en principe inférieures à 2 ans, les peines de prison prononcées. Une condamnation. Les centres de détention sont pour des personnes, donc c'est un établissement pour peine, donc ils vont toutes les personnes qui sont condamnées à une peine de prison de plus de 2 ans. Ensuite, les maisons centrales, telles Vendin le Vieil, qui est considérée par les autorités, l'administration pénitentiaire, comme un établissement accueillant les personnes les plus dangereuses. Alors là, je mettrai des guillemets. Et le milieu ouvert, donc ce sont des mesures où le condamné reste dans son milieu, dans le milieu social. Ce sont des mesures avec des obligations, avec des interdictions, avec un suivi qui est beaucoup plus profitable. Et ce sont donc les mesures, un exemple que tout le monde connaît beaucoup, c'est les travaux d'intérêt généraux qui nécessitent la mobilisation des municipalités, mais les municipalités sont très peu nombreuses à accepter de prendre un condamné en TIG, donc en travail d'intérêt général, ce qui fait que la mesure stagne. Mais ce qui est regrettable, ce sont c'est ce que nous constatons depuis un certain nombre de mois, c'est que les mesures en milieu ouvert, en pourcentage, baissent par rapport aux mesures d'incarcération qui sont prononcées.
Il y a eu un débat après cette projection, et puis à un moment donné, dans une de tes interventions, il y a une phrase que j'ai relevée parce qu'elle me paraît très intéressante, c'est « il n'y a pas de réflexion sur la politique pénale ». À l'heure actuelle ou depuis toujours, comment tu expliques ce ping-pong incessant entre l'opinion publique et la politique pénale?
En fait, je pense que c'est un courage politique. Beaucoup se souviendront du discours, de la prise de position de Badinter contre la peine de mort. Là, je pense qu'il y a un parallèle à établir pour le courage qu'il faut pour reconnaître le côté déficient de notre politique pénale, qui est une politique qui répond plus à des faits divers qu'à une étude approfondie, qu'une réflexion de fond. Je disais tout à l'heure qu'entre 2002 et 2012, il y a eu 29 lois pénales nouvelles qui aggravaient donc les risques de se retrouver incarcéré. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui ont été prises en fonction de faits divers pour rassurer le peuple français, et beaucoup plus pour dans le cadre d'une politique dite sécuritaire, mais qui ne sécurise rien du tout. Voilà. Et là sont annoncés, des chiffres sont avancés, en plus en période électorale, on approche de période électorale, les chiffres sont avancés de 16 000, 20 000, on entend de tout et de rien, mais ce sont des politiques qui donc annoncent des chiffres, mais qui, dans le fond, ne régleront strictement rien et surtout pas les conditions d'incarcération et surtout pas les conditions de sortie des gens qui sont incarcérés, parce que même quand, si on pense qu'une personne est incarcérée, l'a bien méritée, etc., mais si on considère que le temps de prison est un temps mort, la personne va ressortir dans quel état? Dans quel état pour... est-ce que ça va rassurer? Est-ce que c'est rassurant pour la société? On ne sait pas.
Alors, une dernière question, justement, toujours autour de cette politique pénale et ce côté législatif sur l'administration pénitentiaire. Un des candidats, qu'on ne va pas nommer sur Micro Rebelle, dans son programme, propose de rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'associations, dont je pense la NVP, Secours Catholique, travaillent en étroite collaboration avec l'administration pénitentiaire, puisqu'on est, ces associations ne sont pas là pour pilonner, mais bien travailler conjointement avec les salariés, le personnel pénitentiaire, avec les détenus. Quand tu entends ça, qu'on voudrait donc que l'administration pénitentiaire maintenant soit rattachée au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Je ne connais pas cette proposition, je ne sais pas sur quoi elle s'appuie, mais effectivement, même si je ne sais pas sur quoi ça s'appuie, si la proposition est faite, c'est qu'elle n'augure rien de positif. Je pense que l'administration pénitentiaire doit toujours faire partie de la ministère de la Justice, et que nous, en tant qu'association, on s'inscrit dans donc notre intervention de bénévoles s'inscrit dans une collaboration avec les services d'administration, avec les services d'administration pénitentiaire, dont nous sommes totalement indépendants. Donc je pense que si il y a un changement de statut, de structure au sein de l'administration, et en l'occurrence donc de l'administration pénitentiaire, peut-être cela va-t-il remettre en cause notre collaboration, mais je ne pense pas, puisque bon, notre intérêt, enfin notre mission, notre on existe pour la rencontre des personnes détenues, et pour la personne détenue, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit d'être attaché ou de ne pas être attaché à la personne détenue. Elle veut une relation de confiance, pouvoir se préparer au mieux à sa sortie, et je pense qu'on va toujours, nous, avoir cette action, ces rencontres, qui aident les personnes détenues à ne pas se désocialiser complètement.
Bien, merci beaucoup Philippe Bécard et bon courage avec la NVP. Vous êtes toujours sur Micro Rebelle Hebdo, c'est votre reportage. Là, vous écoutez Anticipate du groupe Mountain King et le reportage va reprendre dans quelques instants. We'll be right back. bonsoir Monique. Donc, tu es référente du secours catholique à la maison d'arrêt de Béthune. Et ce soir, il y a une soirée qui est organisée conjointement avec l'Association nationale des visiteurs de prison dans le cadre des Journées nationales prison. Est-ce que tu peux expliquer un peu le but de cette soirée ?
Le but, c'est quand même de faire connaître le monde carcéral aux gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, il y a ce soir un film qui va montrer une autre forme d'incarcération, parce que l'incarcération, ce n'est pas toujours l'enfermement, ça peut être autre chose. Voilà, donc le but de ces rencontres, de ces journées nationales prison qui ont lieu tous les ans, à la même époque, toujours fin novembre, pendant une semaine, c'est de faire connaître justement le monde carcéral.
Pourquoi il est important de faire connaître le monde carcéral au public et pourquoi spécifiquement pendant une semaine ?
Ça dure une semaine parce que finalement pour permettre à toutes les prisons, enfin pas les prisons mais toutes les associations d'intervenir, de faire connaître justement ce monde carcéral qui est vraiment indispensable parce qu'on pense que la prison c'est le Club Med, que c'est un hôtel 4 étoiles, qu'on a tout ce qu'on veut mais en réalité c'est pas ça du tout. La prison c'est 9 mètres carrés pour 3 personnes. Et puis la télévision, faut la payer. Les repas, si on n'aime pas les repas de la prison, eh ben si on n'a pas de sous, on peut pas s'offrir autre chose. Donc finalement, la prison, c'est pas aussi beau que ce qu'on veut le dire. Est-ce que les gens croient ?
Toi-même, tu es donc bénévole au secours catholique et tu es référente à la maison d'arrêt de Béthune. Alors du coup, peux-tu présenter les actions que le secours catholique y mène dans cette maison d'arrêt ?
Donc j'ai commencé à connaître le monde de la prison il y a quelques années en intervenant en qualité d'accueillante des familles. Et ça, c'est au nom des visiteurs de prison. Donc je recevais les personnes qui venaient au parloir. J'ai commencé à connaître ce monde-là, mais par l'intermédiaire surtout des familles. Et puis un jour, j'étais sollicitée par le Secours catholique pour faire partie d'une commission qu'on appelait la commission d'indigence. Parce que les personnes incarcérées, certaines personnes, n'avaient aucune ressource. Elles arrivaient en prison avec ce qu'elles avaient sur le dos et pas un sou. Pas de famille pour aider. Rien, donc elle n'avait rien. Et le Secours catholique, qui était très très sensible à cette pauvreté, puisque le père Jean Rodin, qui était l'inspirateur du Secours catholique, avait été aumônier des prisonniers. Donc des prisonniers de guerre, mais ensuite des prisonniers, de tous les prisonniers. Ce qui fait que c'était vraiment la mission du Secours catholique à l'origine, aider les personnes prisonniers. Prisonnières, les personnes incarcérées. Donc voilà, quand j'étais sollicitée pour faire partie de cette commission d'indigence, j'ai dit oui parce que je voyais le monde de la prison par rapport à ce que les familles me disaient. Et j'avais envie de voir quand même ce qui se passait à l'intérieur. Mais cette commission, c'était bien, mais on travaillait sur des dossiers. Donc on ne rencontrait pas les personnes qui étaient incarcérées. Et le Secours catholique accordait une participation, une aide pour chaque personne qui était en situation de grande difficulté. Et puis, avec l'aide d'autres associations, le Secours catholique s'est battu pour que ce soit l'administration pénitentiaire qui prenne en charge cette aide qui était accordée, c'est-à-dire 20 euros par mois. Puis c'est depuis quelques années, justement, l'administration pénitentiaire, à force de lutter, l'administration pénitentiaire a pris en charge les 20 euros. Donc le Secours catholique n'a pu intervenir pour cette aide-là. Mais comme nous avions nos pieds à l'intérieur de la prison, il fallait bien faire quelque chose. Il ne fallait pas lâcher ces personnes qui étaient en grande souffrance, en grande solitude. Donc, en réfléchissant ensemble, nous avons décidé de faire d'autres actions, c'est-à-dire d'abord au départ les jeux de société. Donc il y a eu les jeux de société, il y a eu un atelier cinéma avec d'autres projets bien sûr, un atelier guitare, mais là il nous manque un animateur ou deux animateurs, et puis également un projet qui va bientôt sortir, lire et écrire pour s'en sortir. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que à la maison, moi, j'interviens à la maison d'arrêt de Béthune et à la maison d'arrêt, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui ne savent pas lire ni écrire ou très, très mal. Donc, ce sera encore une très bonne intervention. Je pense que ça pourrait aider éventuellement les gens à la sortie. Parce que l'objectif aussi du Secours catholique, c'est d'éviter les récidives. Et si les gens ne sortent pas dans de bonnes conditions, ils reviennent quelque temps après, quelquefois le lendemain ou le surlendemain.
Tu es revenu sur plusieurs aspects de l'intervention du Secours catholique, et notamment à la maison d'arrêt de Béthune. Rapidement, pour les auditeurs, les auditrices de Micro Rebelle, et puis pour les autres, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste cet atelier jeu de société ?
Oui. Cet atelier était le premier en France et je pense qu'il commence à avoir des adeptes parce que de temps en temps, on est sollicité par d'autres prisons pour demander comment on intervient. Alors, les jeux de société n'ont pas été choisis comme ça au hasard. Il y avait quand même un objectif. L'objectif, c'était de faire comprendre que dans un jeu de société, il y a un règlement et que dans la vie, il y a un règlement. On ne peut pas vivre n'importe comment, on ne peut pas tricher, on doit vivre normalement. Alors je pense que ça, on essaye à travers ces jeux de société d'apporter cette façon de vivre. On ne peut pas toujours être exclu. Il faut un jour vivre normalement. Et dans ces jeux de société, ça se passe tout à fait à la bonne franquette. On est exactement comme eux. On est égaux. On s'assied à la même table, on joue au même jeu. Souvent, c'est eux qui nous apprennent, d'ailleurs. Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas du tout une joueuse. Alors, c'est vraiment eux qui m'ont appris. Et je pense qu'il y a énormément d'échanges. On parle de tout, de n'importe quoi. Et à travers cette confiance qu'on vit ensemble, ils nous parlent de leur vie, ils nous parlent de leurs soucis, de leurs problèmes. Et à partir de là, on enregistre leurs difficultés et le Secours catholique est toujours là pour les aider à réussir, à bien sortir. C'est ça surtout, bien sortir pour qu'ils ne reviennent plus, pour qu'ils n'aient plus envie de revenir. Parce que la sortie, c'est quelque chose de très, très difficile. Depuis, voilà, les jeux existent depuis février 2013. Nous avons connu pas mal de personnes incarcérées que nous continuons à voir, même si elles sont sorties, nous continuons à les voir. Et ces personnes-là font également partie du Secours catholique. Le Secours catholique leur a donné du bénévolat. Elles se sont intégrées, elles font des remises à niveau, elles aident des personnes à faire leurs démarches, elles parlent aussi de leurs problèmes, de ce qu'on vit en prison. Alors tout ça, c'est formidable parce qu'on ne les lâche pas du tout à la sortie. Le Secours catholique ne les lâche pas. Il y a toujours un suivi pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui en ont besoin.
Une dernière question. Est-ce que tu peux expliquer les nécessités d'un suivi justement pendant et après le temps de la détention ?
Alors le plus bel exemple que je puisse vous dire, c'est je vais vous parler de Robert. Robert qui était notre premier client au jeu de société, notre premier joueur. Robert qui a été incarcéré pour une histoire que je n'ai pas à raconter, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Et Robert, il s'est accroché à nous et Robert, il a terminé sa peine. Et quand il a eu terminé sa peine, il a été embarqué au Secours catholique. Mais Robert nous a toujours dit, heureusement qu'il y avait des gens à qui j'ai pu m'accrocher parce que je n'aurais pas tenu le coup. C'est excessivement difficile quand on a fait quelques années d'incarcération de sortir. Parce que quand on sort de prison, on ne sait plus rien faire. On ne sait pas faire de chèque. On n'ose plus se présenter à la poste. On n'ose plus se présenter à la banque. On n'ose plus voir ses voisins. On reste enfermé. Et ça, ce n'est pas la solution du tout. Alors, il le dit toujours, il a eu la chance de trouver des gens qu'il a rencontré en prison, des gens du Secours catholique à qui il a pu s'accrocher et à qui il téléphonait pendant des heures. Il a toujours trouvé une oreille attentive, toujours des gens qui ont su l'écouter et l'accueillir. Robert, maintenant, fait partie des bénévoles du Secours catholique. Et il y en a d'autres, il n'y a pas que Robert, mais Robert, c'est notre premier client, je le dis toujours, notre premier client.
Bah écoute, merci beaucoup Monique. Merci pour cette soirée donc, de ciné-débat. Donc, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'il y avait ce jeudi 24, un ciné-débat autour d'un documentaire qui s'appelle « À l'air libre » donc sur la ferme prison de Moyen-Brie, qui était conjointement organisé avec le Secours catholique et l'Association nationale des visiteurs de prison. Donc vous avez pu avoir l'interview de Philippe Bécard, le président de la section béthunoise des visiteurs de prison. Voilà, donc pour chers auditeurs et auditrices, ce petit reportage de deux interviews est maintenant terminé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, à la semaine prochaine, puisque ce reportage est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet microrebelle.fr ou l'écouter en streaming directement. Sur le site, vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions, des reportages, des émissions littéraires et les micro-rebelles hebdo qui sont diffusés sur Radio PFM 99.9 tous les mardis à 15h avec une rediffusion le samedi à 8h et le dimanche à minuit sur Radio PFM. Avant de vous quitter, un mot sur la musique, c'était le groupe Mountain King qui nous a accompagnés avec deux morceaux, le morceau Anticipate que vous avez écouté pendant ce reportage, et on va se quitter avec Palmas, tous les deux tirés de leur album Feels. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage sur Micro Rebelle Hebdo. D'ici là, portez-vous bien, ciao!
Eh bien, ce micro-rebelle hebdo se termine. Je vous rappelle que l'ensemble de nos émissions sont disponibles sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. N'hésitez pas à le visiter et à télécharger nos chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse avec un dernier morceau très entraînant de notre groupe du jour, Goodbye Kumiko. Ce morceau s'intitule Héliotrope. Bonne écoute sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9.
Well, the sun left here not long ago. It's gone from bad to worse over the Gulf of Mexico. Well, I know the neighborhood. They're all gonna stay home. Oh, well, maybe when I get older, I'll worry about their souls. It seems so calm on this summer night, under the emerald black colored southern sky. They say the rain's gonna come tonight. I heard that's how God smells. Well, maybe we'll get to meet him and find out for ourselves. Fill the tub and keep a window open. If you choose to stay, morning won't come. Paper boat
down a flooded street. While the water keeps rising, I feel at peace. The weight of my life lifted off my shoulders. If I finally die here, we'll bury me facing east. Fox got its hole, a bird's got its nest. Man said